On ne va pas refaire l'histoire. La série podcast qui réinterprète l'histoire des femmes au fil des siècles.
En s'appropriant leur prisme émotionnel et en resituant une part de vérité, leur vérité.
Karine Micard, auteure de romans initiatiques et historiques.
Premier épisode.
Juliette Drouet, une Bretonne de Fougères, l'amour passionnel de Victor Hugo.
Mon admirable Toto, viens me chercher ce soir. Je t'aimerai jusque-là pour prendre patience. Mais sache-le, cette vie d'isolement et cette injonction sédentaire me tuent. J'use mon âme à te désirer autant. Je m'appelle Juliette Drouet, née Julienne Gauvin en 1806 et morte à Paris en 1883. On dit de moi que je fus une piètre actrice. En vérité, mon destin m'a refusé la gloire sur scène uniquement pour me permettre de mieux la célébrer dans la vie. Auprès de toi. Mon plus beau rôle, je l'ai tenu dans tes bras, mon cher grand petit homme. Je fus ta muse, ta maîtresse, ta reine de cœur, ta copiste et parfois même ta conscience. Toi, le grand homme, le mythe, l'écrivain à succès, le poète empli de lyrisme épique, le dramaturge, le romancier et l'homme politique, l'académicien, humaniste et grandiloquent, initié et défendeur de la cause des petites gens. Discourant contre la misère et l'égoïsme des nantis. Ton génie fut si écrasant, presque paralysant. Je suis présentée aujourd'hui comme ton impérieuse passion. Une passion qui nous a unis un demi-siècle, mon amour. De ce genre de passion qui imprègne chacune des cellules du corps et de l'âme jusqu'à marquer une empreinte indélébile. On dit de nous que nous correspondions beaucoup. Nous aurions échangé plus de 22 000 lettres, en effet. Notre inlassable échange épistolaire révèle notre passion dévorante. Et ces heures à t'attendre et à t'espérer mien. Tu aimais mon style littéraire, tu aimais ma voix, tu aimais ma peau, tu absorbais mon âme. Folie passionnelle ou folie aliénante? Pour toi, j'ai condamné ma vie de femme. Pour toi, j'ai oublié ma vie avant toi. Je suis née d'un père chouan et tailleur miséreux et d'une mère fileuse. J'ai été orpheline beaucoup trop tôt. On manqua de me placer à Fougères, aux enfants trouvés, avant que mon cher oncle René Drouet, canonnier garde-côte sur la côte bretonne, ne se manifeste pour m'adopter. J'ai grandi sur l'âpre littoral, auprès d'un père d'adoption sans doute trop aimant. Puis je fus confiée à 10 ans. À sa sœur, religieuse au couvent des bénédictines de l'adoration perpétuelle du Saint-Sacrement. On allait me préparer à devenir moi aussi religieuse. On m'accorda toutes les grâces de l'esprit, ainsi que les fondamentaux d'un savoir-vivre irréprochable. On m'inculqua la ferveur, la foi en un Dieu souverain tout-puissant. Un maître à adorer à l'extérieur de moi, à redouter aussi parfois. Cela forgea en moi une inclinaison à placer les autres au-dessus de moi. J'occupais mes heures perdues à rêver ce monde qui existait au-delà des murs de ce couvent austère. Je connus les soirées glaciales et solitaires, les pleurs la nuit, le vide à l'intérieur de moi. J'étais éprise d'un feu intérieur dont je ne comprenais pas la présence. Les murs du couvent s'étaient ouverts après avoir échoué à 16 ans à l'épreuve préparatoire au noviciat et je comptais bien profiter de ma nouvelle liberté. Paris et son effervescence, Paris et ses milieux artistiques, Paris et ses ambiances si dissemblables de l'austère couvent des sœurs bénédictines. Si le théâtre en particulier m'attirait, j'aimais encore plus fréquenter le monde de la nuit. Je rêvais d'être actrice. Je rencontrai le futur père de ma fille à une soirée mondaine qui se déroulait dans un atelier notoire rue de l'Abbaye, où deux fois par semaine se mélangeait le tout Paris artistique. Peintre, poète, musicien, homme politique, écrivain, femme du monde, modèle, actrice, bohème libre et vaniteux. James Pradier, de 16 ans mon aîné, était un des sculpteurs le plus en vogue de sa génération. J'étais fascinée par l'artiste. Fasciné par ce débordement d'orgueil qui masquait pourtant tant de vacuité. Il trônait dans cette frénésie, affublé d'un livrier écossais. C'était un original. Il m'a aussitôt repéré. Au premier regard, j'ai eu envie d'être pour lui une source d'inspiration. Et je suis devenue sa muse. Mes lignes harmonieuses se portèrent à l'exercice de la pose pour de nombreuses études de tête et de nu. Mon buste allait même un jour trôner place de la Concorde à Paris. Pour représenter la ville de Strasbourg, gravant dans le marbre mon souvenir pour quelques siècles. Ma fierté s'estompa assez rapidement quand j'appris à mieux connaître l'homme. Ce dernier se révéla être un grossier personnage lors de ses moments de doute ou d'accablement. Il était brutal, vaniteux, sans aucun tact. Il accumulait les aventures, parfois les plus vulgaires. Il était très beau parleur. Je crois si facilement les hommes sur parole. Je ne comprenais pas qu'il ne suffit pas de croire à ce qu'on me dit, mais d'écouter la façon dont l'homme vibre quand il parle. Je tombais enceinte à 21 ans. S'il accueillit ma grossesse avec ferveur, il ne chercha cependant pas à régulariser notre situation en m'épousant. Un maître ne s'abaisse point à épouser son modèle. Voilà tout. Il choisit de mettre en nourrice notre fille, chez un couple, puis se soucia de m'offrir une carrière d'actrice, mais loin de lui, pour m'éloigner un temps de ses incartades vraisemblablement. Je me retrouvais à Bruxelles, sans un sou. Seule, à devoir m'assumer et à ne pas avoir d'autre choix que de trouver un protecteur. Mais je ne souhaitais pas dépendre d'un homme. J'étais dans l'attente d'un rôle qui m'ouvrirait les portes d'un théâtre et m'aiderait à être autonome. Qui sait, un jour sans doute, on me repérerait pour ce que j'avais de plus précieux à donner et je deviendrais célèbre, nourrie par cet immense besoin de reconnaissance que j'attendais tant. L'espoir, l'attente vaine. Il est si difficile de trouver sa place quand on est femme dans un univers patriarcal. Ému par ma détresse, Félix Haré, régisseur du Théâtre Royal de Bruxelles, me fit enrôler dans sa troupe. J'allais enfin gagner ma vie convenablement. Haré allait de surcroît être appelé à Paris pour diriger le théâtre de la Porte Saint-Martin, puis le théâtre de l'Odéon. J'allais retrouver Paris que j'aimais tant et bientôt revoir ma fille qui me manquait énormément. À mon retour à Paris, je changeais de nom. À l'affiche, j'étais Mademoiselle Juliette. Dans la vie, j'étais Julienne Gauvin. Si jusqu'alors les hommes avaient cherché à me définir, je choisissais dorénavant de me réinventer une identité. Je décidais que je deviendrais Juliette Drouet, en hommage à celui qui fut le seul homme à m'avoir vraiment respectée, mon oncle. Sous l'égide de ce nouveau nom, j'étais décidée à partir à la conquête de mon véritable destin. Je multipliais bientôt les aventures. Mes amants appartenaient à tous les mondes. Il m'était si simple de les séduire. Je jetais mon dévolu sur un grand seigneur, le prince Demidoff, qui bientôt m'offrit un magnifique appartement rue de l'Échiquier. Je connus le luxe et l'abondance, mais mon cœur restait fermé, sans doute parce qu'il se réservait pour son vrai roi. En janvier 1833, tout allait basculer pour moi. Harel avait mis à l'affiche du théâtre Saint-Martin un nouveau drame intitulé « Lucrèce Borgia » d'un certain Victor Hugo. J'avais déjà entendu parler de toi, de ton génie littéraire et de ton charisme débordant. Je t'avais déjà croisé lors d'un bal d'artistes 8 mois plus tôt et un premier contact troublant s'était établi entre nous, souviens-toi. Suffisamment magnétique pour être remarqué. Visiblement alors fidèle à ta femme à cette époque, tu ne m'avais manifesté guère plus qu'un regard à peine appuyé. C'était bien avant que tu n'apprennes que ton épouse ne te trompe avec Sainte-Beuve, ton ennemi juré, cet écrivain raté, critique littéraire de misère. La trahison allait faire de toi un autre homme et bouleverser ton rapport à la fidélité. Jamais tu ne te déciderais à quitter Adèle, la mère de tes enfants. Mais cependant, elle paierait son incartade au prix de multiples infidélités à ton tour. Je devins par bonheur la plus fidèle de tes infidélités. Par bonheur, mais un peu aussi pour mon plus grand malheur. Tu devins un aimant à femmes, t'amusant à recenser tes proies dans un cahier en notifiant leurs exploits. Charmant. Cette figure de princesse italienne que j'interprétais dans ta pièce, ce 2 février 1833, un rôle secondaire sans aucune prétention, allait pourtant te conquérir et faire de moi la nouvelle proie à posséder.
Comment ne vois-tu pas que tout ce que je fais, même le mal que je te fais, c'est de l'amour. De l'amour fou, absurde, extravagant, jaloux, inquiet. Tout ce que tu voudras, mais c'est de l'amour, Juliette.
J'avais 27 ans. Tu en avais 31. Le 17 février 1833 a uni nos corps et nos destins pour la première fois. Cette date coïncidera d'ailleurs avec le mariage de Marius et Cosette dans ta digne fresque des Misérables. 50 ans allaient nous unir, d'une façon très peu conformiste et pourtant si intense. Avant de comprendre une réalité moins romantique. On ne peut décemment vivre avec sérénité et apaisement un amour qui nous contraint à la triangulation, à l'attente et à la parfaite dépendance, aussi grand homme que soit l'élu. Rien ni personne ne mérite l'aliénation au sein d'un rapport de force d'emblée si peu équitable. Pourtant, je n'ai jamais eu la force de m'affranchir de toi. J'ai choisi de me réserver à toi durant toutes ces années. Dussé-je ne jamais accéder à un statut légitime à tes côtés. J'étais consentante, car je vivais l'ivresse amoureuse sincère, et jamais je n'avais encore connu un tel bonheur. Je ne voyais pas que non seulement j'acceptais cette cage dorée que tu me dessinais de tes mains d'adorateur dévorant, mais qu'aussi j'enfermais moi-même la serrure à double tour. Du moment où tu entras dans ma vie, mon existence changea du tout au tout. Fini mon quotidien d'actrice et d'amante. Tu finanças un appartement parisien dans lequel tu m'installas. Tu en choisis les décors, jusqu'aux couleurs des draps. Tu disposas toi-même le mobilier. Tu me couvrais de cadeaux. Parures de dentelle, bijoux de perles, grands crus de vin. Rien n'était jamais assez beau pour moi, mis à part que jamais je ne pouvais jouir de ces atouts en dehors de nos entrevues. Puisque tu m'interdis un jour de mener toute vie sociale sans toi. Il fut entendu que je ne sortirai jamais sans toi, que je ne recevrai personne et que je n'ouvrirai plus mes lettres qu'en ta présence. Enfin, que je t'écrirai deux fois par jour régulièrement. J'acceptais tout dans ma folie d'amour. Tout, sans aucun discernement. Tu sus me convaincre de t'aimer à distance, seul moyen de poursuivre ta vie et te régaler de conquêtes de passage pour nourrir cette faille en toi. Tandis que tu m'intimais l'ordre de t'appartenir. Cette faille, jamais tu ne te l'avouais. Tu redoutais les effets de mon charme sur les autres hommes. L'idée qu'un autre me touche te rendait fou. Alors tu m'isolais, tu me séquestrais dans cet appartement et tu t'assurais de garder le trousseau sur toi la journée. J'étais comme une rose que tu mettais sous cloche. Tu devenais le seul décisionnaire de mes allées et venues. Un temps privé de cette sacro-sainte liberté, j'apercevais tes irruptions chez moi comme autant de bouffées d'oxygène dont il m'était vital de m'abreuver. Le temps passé à t'attendre exacerbait les tensions. Le temps, l'attente. Tu me mettais en attente de tout, ne me livrant qu'avec parcimonie ce que j'étais en droit d'espérer de toi avec régularité. Tu me promettais de partir en voyage, j'attendais. Tu m'avais promis que je jouerais le rôle de la reine dans Ruy Blas, j'attendais. Je ne mesurais pas combien notre liaison devenait toxique. Pire, loin de m'offusquer de ce traitement, je trouvais incroyable cette puissance d'amour qui soulevait autant de passion en toi, en me sentant autant aimée. Je devais forcément compter pour toi. En nourrissant en moi une estime personnelle et une reconnaissance sincère, cela m'aurait évité de tout attendre de toi. La vie, bien souvent, attend qu'on se respecte soi-même pour faire intervenir de la magie dans les circonstances et les rencontres. C'est en changeant son rapport à soi qu'on le change auprès de l'autre, si seulement je l'avais compris plus tôt. Tout ce que j'attendais de toi, mon élu, c'était à moi de me l'offrir. Alors plus jamais je n'aurais redouté d'être quittée. Et j'aurais peut-être su te quitter pour mieux me choisir, moi.
Comédie, comédie orchestre à Napoli.
Tu menais grand train, profitant de tes succès littéraires en te fondant dans le tout Paris, me racontant tes dîners mondains, tes heures d'écriture, tes rendez-vous éditeurs, et ne me régalant que d'informations choisies, de façon à ce que jamais je n'en sache trop, mais suffisamment aussi pour que je m'implique et m'improvise conseillère fidèle, persuadée de t'être indispensable. Je fus une fois, un mois et demi en réclusion totale, le temps de ton écriture de Ruy Blas, en 1836. Tu me demandais de recopier certains passages de tes œuvres et je m'exécutais, persuadée d'être dans le secret des dieux, de mon Dieu. Toute ma vie, j'allais chercher comment légitimement te mériter, comment te faire rester auprès de moi, comment t'appartenir et te rendre fou d'amour pour moi, être tienne à jamais. Toi, mon Dieu, mon amant, telle était mon obsession. Cette validation que j'attendais des autres en vain, je l'obtenais de toi dans nos moments d'intimité. Tu as su en jouer, tu as su me vénérer, tu es parvenu à me faire croire que j'étais celle que ton âme aimait depuis 1000 ans. Comment n'aurais-je pu le croire ? Nous vibrions sur la même intensité, toi et moi, accordant nos peaux et nos âmes comme deux instruments qui ne se lasseraient jamais de jouer les variations d'une même symphonie. J'ai cru pouvoir me distinguer d'entre toutes, puisque tu disais follement m'aimer. J'étais l'objet de ton amour. Tu étais mon amour, clairement. Et moi, j'étais ton objet. Tu devins mon tout, mon héros, mon sauveur. Les taux de l'emprise se resserraient. Devant les frasques que me faisait endurer Pradier à l'égard de notre fille qu'il tentait d'éloigner de moi, je fis l'erreur de m'en remettre à toi. Je t'offrais en vérité une place d'honneur dans mes conflits du passé, te laissant t'introduire dans ce qui aurait dû rester mes préoccupations personnelles. Même la mort de ma fille adorée, Tu me proposais de la vivre à ma place. C'est toi qui te rendis à son enterrement, derrière son corbillard, aux côtés de son père, pour pallier à ma dévastation. C'était 3 ans après avoir perdu ta petite Léopoldine, noyée dans la Seine. Une décennie plus tard, suite au coup d'État du 2 décembre 1851, où Louis-Napoléon Bonaparte s'apprêtait à devenir, par les armes, Napoléon III, et à prendre le pouvoir en rétablissant l'Empire, tu te ligas contre lui pour des raisons politiques et des raisons personnelles. Tu invitas les Français à la résistance armée. Mais tu dus t'exiler de ton pays car tu fus banni. Je dus t'aider à te cacher dans un abri sûr, le temps de te faire établir un faux passeport. Tu me laissais m'occuper de l'organisation de ton exil, qui allait durer 20 ans. Tu partis d'abord à Bruxelles, puis l'île Jersey, puis Guernesey. J'allais te rejoindre avec une malle de tes écrits précieux. C'était à mon tour d'être ta sauveuse. Je me sentais utile et importante à tes yeux. Tu m'intimas l'ordre de te suivre. Toujours pas pour partager ton quotidien, non, surtout pas. Juste pour rester cette chose docile à disposition à laquelle tu venais t'abreuver à tes heures perdues. Le second choix, toujours et uniquement. J'allais habiter la demeure en face de la tienne à Guernesey. Hauteville House, tel était le nom de ta maison. Je t'observais depuis ma fenêtre, devinant tes activités auprès de ta femme, heureuse de te savoir si proche de moi géographiquement malgré tout. Tu y écrivis tes œuvres les plus importantes, dont Les Contemplations, La Légende des siècles, Les Misérables. À notre tour en France, nous étions bien vieillissants. Depuis longtemps déjà, le feu de notre passion s'était éteint. Moi, consumée par l'attente, toi, transformée par tes séances de spiritisme à répétition. Alors certes, on ne va pas refaire l'histoire. Mais à l'aune de cette relecture de ma vie, un schéma évident d'emprise se dessine derrière cette liaison extra-conjugale passionnelle qui fait fantasmer tellement d'hommes. Tu ne m'as pas aimé, mon amour, tu m'as possédé. Si vivre dans l'ombre d'un homme aussi grand fut-il, dans une séquestration consentie et une adoration quasi divine, aura un temps alimenté une correspondance passionnelle, mon nom, si tant est qu'il me survive vraiment, aujourd'hui résonne avec esclavage. Je ne fus nullement un modèle d'émancipation féminine. On ne va pas refaire l'histoire, non. Mais si par mes mots aujourd'hui, notre mythe devient un parfait contre-exemple pour aider ne serait-ce qu'une âme à s'affranchir d'une situation d'emprise comparable, je me hisserai enfin à ton niveau en signant là le plus bel écrit engagé de toute notre correspondance. Je suis morte en 1883, dans un appartement d'une avenue qui un jour portera ton nom. Je fus enterrée au cimetière près de ma fille chérie. Tu m'as fait un dernier affront impardonnable en ne te rendant pas à mes obsèques. Ton entourage proche avait réussi à t'en dissuader. Une seule chose m'a néanmoins rassurée. Après ma mort, tu n'écrivis plus un seul mot. J'avais donc vraiment compté pour toi. Ta Juju.
Vous venez d'écouter « On ne va pas refaire l'histoire », une série écrite et interprétée par Karine Mécard.
Avec Ouest France.
Disponible sur toutes vos plateformes d'écoute Deezer,
Spotify,
Google Podcast
et sur vos enceintes connectées.